France Culture.
Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin dans Chrétien d'Orient avec Jannick Durand, historien de l'art, conservateur général honoraire du Louvre et spécialiste, entre autres, de la période byzantine. C'est de Chypre dont nous allons parler, une île de Méditerranée orientale, hélas trop méconnue du public français, et qui pourtant montre une riche histoire avec un patrimoine religieux important, notamment dans le Troodos, avec plusieurs églises inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Chypre a été hellène, romaine, byzantine, acquise par les croisés. Nous nous souvenons de la dynastie des Lusignans qui a laissé un patrimoine autant fortifié qu'élevé par ses deux cathédrales majestueuses, vénitiennes ensuite, plus ottomanes et britanniques, jusqu'à son indépendance acquise en 1960. Bonjour Jannick Durand.
Bonjour.
Merci de venir jusqu'à nous pour évoquer une île qui tient une place particulière dans votre cœur. Une première question, pourquoi ce patrimoine du Troodos est-il au fond assez mal connu ?
Alors, mal connu dans une certaine mesure, peut-être parce que pour les Français notamment, l'île est connue surtout pour son site extraordinaire aux portes de l'Orient, pour ses plages, ça c'est le côté un peu touristique immédiat, mais l'île est aussi tout à fait connue pour ses sites antiques qui sont tout à fait extraordinaires et qui déjà justifient à eux seuls un voyage. C'est peut-être la raison pour laquelle le Troodos, qui est tout de même au milieu de l'île quelque part, enfin géographiquement, peut-être un peu plus difficilement accessible, est un peu moins connu. Mais c'est vrai que l'ensemble de ces églises byzantines ou de tradition byzantine dans le Troodos constitue déjà un patrimoine énorme qui s'ajoute au patrimoine précédent que je disais. Donc peut-être est-ce là une des raisons de cette relative méconnaissance.
Alors une situation assez singulière de l'île de Chypre, c'est vers le Levant, mais ce n'est pas non plus le Levant complètement, ce n'est pas non plus la Grèce complètement, une vieille culture hellénique qui demeure et s'accroche. Je crois d'ailleurs que le dialecte chypriote est le plus proche de la langue ancienne écrite par Homère, disent les spécialistes. Un conservatoire architectural, un conservatoire religieux, comment faut-il l'envisager
à votre avis ? On savait tout ça en réalité, et quelles que soient les époques, parce que même sans vouloir remonter à des époques sur lesquelles je ne connais pas grand-chose, paléolithique, ou même les sites antiques bien connus, pas fosses, les mosaïques, etc. La partie médiévale, byzantine et byzantine et gothique, comme vous le savez, quelque chose de prodigieux, vraiment prodigieux.
Vous avez des souvenirs liés à l'hiver, je crois, des premiers souvenirs dans le Troodos.
Oui, parmi mes premiers souvenirs dans le Troodos, effectivement, c'est un hiver. Ce devait être peut-être au mois de février ou quelque chose comme ça. Et il y avait de la neige, il y avait même de la glace. Il y faisait froid et c'était un peu inattendu, c'est vrai. Et surtout, quand on venait, je ne sais pas, de Paphos et qu'on retournait du Troodos pour retourner éventuellement à Paphos ou à Limassol et qu'on se retrouvait au milieu des bananeraies. Et là, il faisait déjà un peu plus chaud, même si c'était l'hiver. Donc c'est assez surprenant en réalité. La nature elle-même est déjà surprenante.
Cette montagne du Troodos qui est à 2000 mètres d'altitude, oui. Et donc qui a entraîné une architecture particulière pour ces églises.
Alors oui, c'est un site géographique très très étonnant, parce que ce n'est pas une simple montagne, c'est une montagne qui est creusée de sillons, de vallées. C'est là qu'on trouve effectivement, presque comme des réfugiés finalement à la limite, un certain nombre d'églises qui présentent à la fois des règles constantes dans l'édification des édifices religieux byzantins de la période médiévale, disons, après l'iconoclasme et jusqu'au XIIIe ou XIVe siècle, ou jusqu'à la chute de Constantinople même, mais présentent aussi de manière très savoureuse des éléments qui sont proprement chypriotes et qu'on trouve moins ailleurs, qui ont une connotation vernaculaire qui est très intéressante, plus l'apport éventuel gothique, qui est plus ponctuel dans ces églises, qui sont un peu un refuge, quelque part, ou ont été un peu un refuge de l'orthodoxie, comme vous le savez, y compris sur le plan politique.
Je pensais à ces toits en pente, justement, qui sont assez...
Oui, alors ça c'est prodigieusement intéressant, parce que ça suggère aussi les rapprochements un peu inattendu, avec l'Occident. On est très frappé, à Saint-Nicolas-du-Toit, par exemple, ou à Asinou, ou ailleurs, de voir que les édifices sont en quelque sorte protégés par une toiture. Et que cette toiture, effectivement, protège des intempéries. J'ai fait allusion déjà à la glace, mais il y a la chaleur l'été, le soleil, etc. Et au lieu d'avoir des volumes saillants de l'architecture à l'extérieur, notamment la coupole, quand il y a coupole ou autre, on se trouve directement avec un toit qui fait davantage penser à une énorme grange, à la limite, ou à un petit manoir, mais pas du tout, a priori, une église. Alors, quelquefois, par une fenêtre, on devine à l'intérieur le tambour de l'église. Et ce sont donc des superstructures protectrices qui évoque très curieusement ce qu'on trouve très exceptionnellement en France du Sud-Ouest, notamment sur certaines églises à coupole. Et on possède une très vieille photographie du milieu du 19e siècle de certaines églises en France où il y avait au-dessus des coupoles, dans les églises dites à fil de coupole, où on avait effectivement une protection comme ça charpentée qui répond au fond à l'immédiateté d'un problème. Protéger l'extrado des coupoles, soit par un petit toit, soit par du cuivre éventuellement, et là par une toiture qui couvre l'ensemble, on est en quelque sorte davantage garanti. Et c'est un système apparu apparemment assez tôt. On est sûr qu'il y en avait déjà au XIIe siècle, donc avant l'arrivée des Occidentaux au sens politique du terme.
Dans votre parcours de chercheur et dans votre parcours d'historien, vous êtes arrivé à Chypre un petit peu par hasard ou c'est une étape indispensable pour celui qui s'intéresse à l'art byzantin?
Je répondrai les deux, mais l'occasion fait aussi le larron. Et c'est vrai qu'il y avait ce projet d'exposition donc au Louvre sur Chypre qui a eu lieu donc en 2012 et que très
sur la Chypre médiévale,
oui, Chypre, entre Orient et Occident finalement de la christianisation disons jusque à la chute aux mains des Ottomans à laquelle vous avez déjà fait allusion. Et ça permettait à la fois de une redécouverte et une exploration, grâce à cette fois-ci aux collègues sur place, qui ont eu la gentillesse de m'accueillir et de me promener beaucoup, ce qui était évidemment fabuleux. Donc ça, c'est très bien.
Nous avons parlé des églises avec leurs fresques intérieures. Peut-être qu'on pourra en dire un petit mot, mais Chypre est aussi connue pour ses icônes.
Oui. Alors, ce sont deux sujets à part entière, effectivement. Alors, bon, les fresques, il y a des cycles de fresques, enfin, plusieurs des églises, je crois que c'est une dizaine, si je ne me trompe pas, sont inscrites au patrimoine de l'UNESCO, à la fois pour leur architecture et surtout aussi pour leur décor de fresques. Quand on voit les fresques d'Asinou, par exemple, c'est absolument prodigieux. Quand on voit celles de Saint-Jean Lambadistis également, pour n'en citer que deux, ou Saint-Nicolas-du-Toit, que j'ai déjà évoqué, ou d'autres encore. Et puis, indépendamment du phénomène de l'architecture, du phénomène donc de la peinture à fresques, il y a aussi les icônes. Et au musée de Nicosie, au musée épiscopal de Nicosie, qui est en travaux d'ailleurs, je crois actuellement, les travaux doivent finir, un certain nombre d'icônes proviennent précisément du Troodos, d'où elles ont été transportées. C'est le cas de la fameuse icône de Saint-Nicolas du Toit, qui représente Saint-Nicolas donc avec des scènes de sa vie autour, donc le principe est byzantin. La technique est déjà plus intermédiaire, puisque c'est sur du parchemin, ce qui est un peu inattendu pour des icônes byzantines. Et d'autres icônes, je faisais allusion aussi à Saint-Jean Lampadistis, il y a une magnifique icône aussi de Saint-Jean Lampadistis qui en provient. Enfin, et il y a aussi sur place, bien sûr, aussi des icônes, voire même des iconostases anciennes, ou en partie du moins.
Alors l'exemple de ce monastère de Saint-Jean Lampadistis est particulièrement singulier, justement, de cette cohabitation, parce que ce sont, dans mon souvenir, ce sont trois chapelles.
C'est ça.
L'une à côté de l'autre.
Exactement.
Et qui correspond chacune à une période.
C'est ça, il y a le Catholicon, enfin l'église principale, la plus ancienne a priori, qui peut remonter au 10e, 11e. Ensuite, accolée au nord, une première chapelle qui a été en partie reconstruite. Et ensuite, une troisième, chapelle du milieu dédiée donc à Saint-Jean Lampadistis, liée probablement au culte du saint personnage. Et puis au nord encore, une nouvelle chapelle qu'on pourrait presque dire italo-gothique, enfin qui est absolument incroyable, avec un cycle de fresques donc de l'hymne acatiste qui lui est byzantin, mais dans un style italien, avec des restaurations un peu plus tardives pour quelques endroits. Et puis les voûtes avec un système de nervures qui semble imiter des ogives gothiques quelque part, un peu à l'italienne, des ogives sur plan carré, et puis des médaillons en quadrilobe tout à fait gothiques, tout à fait italiens, représentant des saints personnages, enfin les apôtres. C'est vraiment quelque chose d'étonnant. Enfin, c'est une juxtaposition réussie. Et dans il y a aussi l'iconostase qu'on a longtemps cru tardive, en bois sculpté, où il y a les armes des Lusignans d'une part, et puis d'autres qui sont en bois et qui sont, semble-t-il, du XIVe siècle. Enfin, c'est tout à fait intéressant. Il y a toute une héraldique, et là, évidemment, on est dans l'irruption gothique. Donc on a une juxtaposition, mais qui n'est pas gênante, parce qu'il y a... On pourrait croire une juxtaposition gênante, après tout. Et là, non, ça prend tournure, si je puis dire, et ça donne quelque chose, au contraire, de très séduisant et de très attachant.
Nous sommes dans le village de Kallo-Panayotis, oui. Et le monastère est habité toujours par une communauté orthodoxe.
Alors, il y a toujours le monastère, parce que beaucoup de ces édifices, il ne subsiste plus que l'église. Hein. C'est le cas Asinou, par exemple, c'est au milieu des champs, maintenant, si je puis dire, avec un petit muret autour, tout à fait charmant. Là, il y a un monastère, effectivement, qui se visite, où ils ont d'ailleurs une petite collection d'icônes, qu'il montre dans une des salles. Je ne connais pas spécialement la communauté monastique en question.
Un mot sur cette jonction des styles. Qu'a apporté finalement l'influence latine? Est-ce que c'est une technique différente? Est-ce que ce sont des matériaux différents peut-être?
Alors, oui, pour les techniques au besoin, moins pour la technique de la fresque, mais j'ai fait allusion à l'usage du parchemin, notamment pour l'icône de Saint-Nicolas. C'est plutôt sur l'aspect stylistique qu'il faudrait insister, avec une sorte de synthèse qui n'est pas sans rappeler aussi, indépendamment de la juxtaposition qui est indéniable, une sorte de synthèse qui caractérisera aussi la peinture crétoise, par exemple, dans d'autres circonstances, mais pour des raisons peut-être comparables, au fond. Et ça donne effectivement quelque chose de très, très fort. Et moi, personnellement, je trouve ça extrêmement séduisant, que cette espèce de compénétration d'époque et de style différents.
Vous avez mentionné Crète, qui était une autre colonie vénitienne,
oui.
Comme Chypre l'a été.
Oui, mais Chypre a été d'abord, enfin Lusignan, avant que d'être, enfin c'est au 15e, que, enfin oui, il y a Gênes, enfin vous savez ça aussi bien, même mieux que moi, la présence génoise, enfin Famagouste notamment, mais il y a aussi le problème de l'émergence de plus en plus contraignante des Vénitiens jusqu'à Cornaro, effectivement.
Et cette influence Lusignan, justement, cette influence...
Oui, alors elle est si visible dans les grandes cathédrales. Bon, là, on est hors orthodoxe dans les deux grandes cathédrales. Enfin, Sainte-Sophie et puis la cathédrale, bien sûr, de Famagouste, où là, on a l'impression d'une transposition, carrément, de modèles, disons, français du Sud, ou de choses comme ça, avec cette grande façade. Enfin, c'est proprement incroyable. Du point de vue stylistique, c'est plus subtil dans les fresques, parce que à l'intérieur des églises, du moins les églises orthodoxes, je parle pas des chapelles destinées aux latins, encore que la question se pose précisément pour la chapelle nord de Saint-Jean-Lampadistis, il y a quand même une obligation de suivre des règles iconographiques assez simples, hein, et qui sont les mêmes partout dans toute l'orthodoxie byzantine et même au-delà, avec, je parle, la Christ dans la coupole, les scènes de la vie du Christ dans la nef, les évêques consécrateurs, enfin, etc., etc. Je vais pas faire un détail des programmes iconographiques des églises byzantines. Mais avec, de temps en temps, des amodiations dans l'installation des scènes, et notamment dans l'architecture classique où vous avez la coupole dans un plan carré, avec l'abside, tout ça va très bien, le tambour. Bon. En revanche, quand vous êtes, comme à Asinou, sur un plan qui est un plan basilical et où il n'y a pas le même système, là vous êtes obligé d'improviser. Ça, c'est assez séduisant. Et puis il y a aussi dans les narthex des improvisations, et puis l'irruption des donateurs, alors ça quelquefois des époques plus tardives, mais à Asinou par exemple, quand vous voyez une femme en donatrice avec un touré sur la tête, c'est-à-dire cette coiffure gothique, qu'on va dire gothique presque la mode internationale du XIIIe siècle, c'est à la fois savoureux et intéressant. C'est dans les scènes du Jugement dernier, avec un côté très fort sur l'île de Chypre, de côté vernaculaire, enfin proche des gens. Ça, c'est très séduisant aussi, indépendamment des grandes règles canoniques qui sont observées.
Alors, d'une manière un peu plus générale, vous avez une bonne connaissance du monde byzantin en termes d'histoire de l'art. Comment vous positionnerez Chypre par rapport à d'autres centres, bon, Constantinople, bien entendu, mais je pense à l'Asie mineure, je pense à l'Égypte, je pense à ce qui est la Grèce d'aujourd'hui. Comment s'intègre cette spécificité chypriote ?
C'est une belle mais difficile question. On peut dire quand même que jusqu'à ce que Richard Cœur de Lion intervienne dans ces histoires, enfin disons jusqu'à 1192 et surtout la constitution d'une monarchie quelques années plus tard pour le premier roi Lusignan, Chypre, c'est quand même une région de l'Empire byzantin, c'est principalement byzantin. En dépit quand même d'un côté un peu vernaculaire, qui se constate même sur le plan politique avec la fameuse usurpation d'Isaac Comnène, qui a justifié d'ailleurs l'intervention, etc.
Nous sommes au XIe siècle.
Fin XIe, vers 1185, 90, un peu, juste avant la conquête de Richard Cœur de Lion dans le cadre.
Donc une séparation à l'époque de Constantinople.
Une autonomie plutôt qu'une séparation, une autonomie. Mais la règle est quand même constantinopolitaine. Et même après, ça a continué, puisque on sait, et on a la trace quand même, bon, par exemple à la Goudéra, on pense que le peintre est de formation constantinopolitaine. C'est celui qui a travaillé aussi à Pseudis, qui a travaillé probablement, enfin sûrement, à l'Enclaistrade néophyte, donc là aussi fin 12e, dans un programme qui, à la Goudéra, est daté avant 1192. Donc là, on a... bon. Et on a, par exemple, à Saint-Jean, l'Empadistis, dans le Narthex, on a la mention d'un peintre qui est venu de Constantinople. Donc les liens sont constants. Mais ça n'empêche pas d'avoir une curiosité pour les autres. Et en particulier, on est éloigné quand même de Constantinople. Et il y a tout l'afflux après la chute d'Acre. Là, on est évidemment à la fin du XIIIe siècle.
Mais 1291,
oui. Quand, après la chute d'Acre, il y a un afflux de réfugiés. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui se produit en Chypre. C'est sans cesse un milieu où fermentent toutes sortes de liens et de le mot influence est un peu maintenant je crois un peu banni de l'histoire de l'art, mais disons d'apport, il sera plus convenable.
Alors une personnalité française dont nous devons parler un tout petit peu, qui est Camille Enlard.
Ah oui.
Voilà, alors on est à la fin du 19e siècle, mais c'est quelqu'un, alors il s'est intéressé à la Chypre gothique, mais nous devons quand même en dire un petit mot. Il a remis Chypre en fait au centre de cet échiquier levantin.
Alors, il a touché, si je puis dire, à l'architecture byzantine. Bon, c'est un spécialiste d'architecture gothique, c'était d'ailleurs son sujet principal, l'architecture gothique en Chypre. Et en même temps, Camille Enlard s'est intéressé aussi au problème des coupoles. J'y ai fait allusion tout à l'heure, essayant de démêler le vrai du faux entre ces coupoles qu'on trouvait précisément sur l'île de Chypre et dans tout l'Orient byzantin, mais particulièrement se demandant si Chypre n'avait pas pu être le relais, enfin c'était une des vieilles idées du début du 19e siècle, si les coupoles chypriotes ne pouvaient pas avoir joué un rôle dans l'émancipation ou l'essor des coupoles en Occident, dans ces fameuses églises à coupoles. Alors on avait des documents, enfin des éléments historiques qui disaient qu'un évêque de Cahors avait séjourné sur l'île de Chypre, et donc, bon, tout ça ne tient pas très bien la route, et quand on regarde, en fait, il y a une émergence des coupoles en Orient, très ancienne, et en Occident aussi, il y avait déjà des coupoles avant. Simplement, ce sont deux phénomènes un peu parallèles qui avaient donc beaucoup, beaucoup intéressé Enlard. Et il a d'ailleurs aussi collectionné quelques céramiques chypriotes, d'ailleurs, c'est assez amusant, qui sont aujourd'hui à Boulogne, par exemple. Enfin, c'est un personnage absolument fascinant, Enlard. Il y a beaucoup d'ouvrages qui ont fait la lumière un petit peu sur lui, enfin, et ses photos extraordinaire que vous connaissez, les grandes photos, les magnifiques photos qui ont été recueillies dans un album qui a été publié notamment par Jean-Bernard Devers et Philippe Lagneux. Enfin bon, je ne vais pas faire une bibliographie, ça n'est pas le lieu, mais il y a là tout un arsenal d'images absolument incroyables. Et puis bon, vous connaissez mieux le sujet que moi à Famagouste, avec cette juxtaposition des églises, enfin, jacobites, arméniennes, catholiques, orthodoxes, etc. Ça, c'est un autre sujet.
Une quarantaine d'églises d'après la tradition.
C'est un autre sujet.
Parlons un tout petit peu du Louvre. Existe-t-il des objets chypriotes ? Je sais qu'il y en a quelques-uns, mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait valoriser pour encourager les Parisiens, en tout cas, ou les ceux qui
pourraient visiter. Il y a des collections chypriotes impressionnantes, mais qui sont des collections antiques chypriotes, notamment le vase d'Amatonte.
Enfin, c'est extraordinaire.
C'est pas franchement mon sujet, qui pose un problème quand même, parce qu'il est plus grand que la table qui est devant nous, nettement, et certainement beaucoup plus lourd, qui a été donc transporté. Enfin, c'est toute une affaire. Il y a beaucoup d'antiquités chez Priot qui sont remarquables. Pour la période médiévale, il y a un petit morceau qui est conservé au département des sculptures, une sculpture représentant un petit roi agenouillé, très gothique, mais précisément, je crois ne pas me tromper, rapporté par Enlard, justement. Il y a quelques inscriptions aussi chez Priot, mais on ne peut... Il y a une ou deux céramiques, bien sûr. Mais on ne peut pas dire avoir une collection médiévale chez Priot extraordinaire, ni non plus d'icônes. Mais ça, c'est peut-être dû à des circonstances historiques ou autres.
Peut-être qu'on a eu moins de relations...
C'est aussi l'intérêt que portent les gens. Ça, c'est plus difficile. Le Louvre est fait d'opportunités d'achat, mais aussi de dons et de collections. Et à part en l'art que je viens de citer, et qui a donc enrichi dans le domaine médiéval le Louvre, chypriote j'entends, il y a moins de collectionneurs. Il y avait peut-être moins d'opportunités aussi, je ne sais pas.
Une dernière question sur cette période médiévale qui est assez fascinante. Donc c'est Lusignan dont nous parlons, qui sont des souverains, qui sont devenus des souverains, une famille originaire du Poitou. Trois siècles et demi, il y a quand même un temps de voilà où on s'assimile, on devient finalement peut-être plus levantin que les levantins. On parle souvent d'architecture française. Pour vous, que pensez-vous de cette dénomination? Est-ce que c'est pas finalement une simplification de notre vision?
C'est-à-dire que sous les latitudes sous lesquelles furent élevées ces deux cathédrales et d'autres bâtiments, Sainte-Catherine par exemple, pour ne citer qu'un autre exemple, ou même Colossi, enfin bon, on pourrait citer beaucoup d'autres exemples, Platamone, enfin, etc. C'est peut-être le fait qu'il y ait cette espèce de transport finalement pour arriver sur cette île de modèle français qui fait dire que c'est français. Et c'est vrai que... Mais c'est un peu le problème de... au XIIIe siècle, l'architecture gothique est définie, je crois, comme opus franciginum, ce qui veut bien dire... ce que cela veut dire, c'est né quand même, il faut le reconnaître, essentiellement en Île-de-France. Ça s'est ensuite essaimé en France, en Espagne, dans le nord de l'Europe, en Allemagne, etc. Et par le biais des raisons historiques, jusque sur l'île de Chypre. Et là, on est vraiment tout à fait aux portes de l'Orient. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable, finalement. Donc, oui, français, parce que c'est de l'architecture à la française. On a d'ailleurs quelques noms, quelques traces dans les documents qui ont été publiés. Mais les latitudes, la latitude et le paysage, pour revenir au paysage que nous évoquions au début, font que on est aussi un peu quelque part ailleurs.
Jeannick Durand, vous avez toujours plaisir à revenir à Chypre?
Ah oui, d'ailleurs j'y reviendrai dans quelques jours.
Jeannick Durand, je vous remercie infiniment d'être venu jusqu'à nous en ce dimanche matin.
C'est moi qui vous remercie pour votre invitation.
Je remercie François Connac pour la réalisation, Claire Poinsignon et Manuel Couturier pour la technique. Restez sur France Culture, nous retrouvons maintenant le service protestant. Solae, bon dimanche. La 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 la